Cuisine avec sel des Alpes, le sel pur des sommets, seldesalpes.ch. Descente en cuisine, Florence Farion.
Bonjour, tous les dimanches de l'été, nous serons en cuisine entre 12h et 12h30. Une cuisine en Suisse, une cuisine dans 8 régions de la Suisse que nous allons explorer à travers la radio, mais aussi à travers la télévision. Vendredi, si vous étiez devant votre petit écran, vous avez découvert l'émission Descente en cuisine, c'est à 20h10, et l'émission découvrait la Fribourg gourmande. Ce sera le cas durant 8 semaines. Et nous, le dimanche, nous irons nous faufiler dans la cuisine d'un des invités de l'émission. Nos cuisiniers s'appelleront Frédéric Recrozio, Georges Tuder, Christa de Carouge, Pascal Auberçon et bien d'autres, chacun représentant fièrement sa ville. Au programme, une recette de leur choix et surtout leur parcours de gourmet gourmand. Premier numéro de Descente en cuisine du dimanche, nous allons entrer dans le laboratoire de John. John est un passionné de chocolat qui, en ville de Fribourg, a créé un atelier où l'on peut découvrir les secrets du chocolat et déguster quelques créations toutes simples mais diablement goûteuses. Rien n'échappe à John Lehmann. De la plantation du chocolat au secret de fabrication, il est intarissable. Ce qu'il va nous apprendre ce dimanche est diablement utile aux amateurs. Comment réaliser des rochers aux amandes? Vous allez me dire, c'est tout simple. Oui, mais il faut faire fondre le chocolat tout en gardant son bel aspect brillant. C'est quasiment une science. C'est simple, mais il ne faut ni brûler les étapes, ni le chocolat.
Alors donc, on va faire le tempérage du chocolat. Ça veut dire préparer le chocolat en respectant des températures. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on doit le faire. Puis ensuite, comment on peut le faire le plus simplement possible.
Et ça, vous l'enseignez alors à des particuliers ici, mais vous l'enseignez aussi aux élèves, puisque vous êtes prof.
Alors, je suis enseignant à l'école professionnelle. Ça, c'est mon principal travail. Ouais, c'est mon gagne-pain, ouais.
Là, c'est votre danseuse un peu. C'est votre plaisir, cet atelier.
Je souffrais d'un manque de stress. Dans la profession, on est un petit peu habitué à vivre des coups de feu. On est un peu habitué à vivre intensément. Et à l'école, il me manquait quand même cette adrénaline.
J'adore. Vous aimez vous faire peur, quoi. Mais bon, ça, vous n'êtes pas vraiment fait peur. Ça fait combien d'années maintenant? 3-4 ans que vous avez ouvert?
Ça fait 3 ans et demi.
Voilà, ouais. C'est ça. Ouais.
Et on a vraiment des bons contacts. Alors, les participants qui viennent ici sont toujours dans une ambiance un peu festive. C'est chouette. Hein.
Et comment êtes-vous tombé dans le chocolat, John?
Depuis tout petit, j'ai mon grand-père qui était boulanger, mon père qui était un excellent boulanger. On avait une boulangerie à La Roche, donc entre Fribourg et Bulle. J'ai eu la chance d'avoir un père qui adorait son métier. Donc, il m'a transmis un petit peu cette passion. Et par la suite, je me suis dit, mais boulanger, ça a l'air un petit peu pénible. Peut-être attaquons confiseur. Donc, le confiseur fait des fruits confits, fait des confitures, fait des caramels, du nougat, voilà. Toutes sortes de produits à base de sucre. Et de plus en plus, on a dérivé vers le chocolat parce que c'est quand même un produit tendance.
Mais c'est dû à quoi? On a besoin de se remonter le moral, en fait. Ouais. C'est ce que vous disent, j'imagine, ceux qui viennent ici, non?
Alors, pour se remonter le moral, oui. Mais maintenant, si on parle du côté économique, les confiseries ont dû s'orienter vers le chocolat parce que la partie confiserie était perdue.
On mange plus de bonbons, on mange plus de douce. En dehors du chocolat, c'est vrai qu'on mange.
On mange toujours, et de plus en plus, mais ça a été repris par les industries. Donc, c'est tous les parts de marché qu'on a perdu, et c'est pour ça qu'on est venu sur le chocolat. Et notre spécialité aussi dans les chocolats, c'est les produits qui se gardent pas trop longtemps. Donc, tout ce qui est ganache, truffe, tous les produits qui ont une date de péremption d'environ un mois, c'est un petit peu notre pain béni. Les industriels ne peuvent pas trop aller dans ce secteur-là.
Descente en cuisine jusqu'à 12h30 sur la première.
Par quoi on commence?
Alors, on va commencer déjà par choisir une plaque de chocolat. Donc, si on veut faire le travail, il faut trouver un chocolat qui soit bien craquant. Donc, s'il est bien craquant, c'est qu'il contient plus de beurre de cacao. Mais il faut dire que les chocolats de ménage, actuellement, sont des bons chocolats, il faut le reconnaître.
Donc on peut s'en sortir.
Plus on est dans la Suisse romande, côté frontière française, plus on prend des chocolats qui ont un haut taux de cacao. Ça veut dire qu'en Suisse allemande, on travaille avec du 50%, à Fribourg avec du 60%, et vers Genève, c'est du
70%. 70%, ouais, voire davantage. Ouais. Hein. Bon, alors on va choisir le chocolat.
Alors, j'ai quelques chocolats ici à disposition. Par exemple, on va déjà se focaliser sur les chocolats de chocolat noir. On aurait par exemple le Madagascar. Le Madagascar, il est intéressant parce qu'il est un tout petit peu acidulé. Ensuite, on aurait le Venezuela. Donc, 72% de cacao, ça veut dire qu'il contient 72% d'ingrédients provenant du cacaoyer. Ça veut dire beurre de cacao et pure pâte. Alors, 72% de cacao, ça veut dire aussi 28% de sucre. Entre ces deux chocolats, on a vraiment une énorme différence. Dans le Venezuela, on a de l'amertume. Et dans le Madagascar, on a de l'acidité. Et l'acidité prend plus de place dans la bouche.
Mais est-ce que c'est le même arbre partout ?
Alors, dans les arbres, on a trois types d'arbres. Donc, c'est des familles d'arbres. On a, par exemple, le criollo. Le criollo, c'est un cacaoyer qui vient d'Amérique centrale. C'est un petit peu le cacao d'origine. Ensuite, vous avez le forastero. C'est le gros de la production. C'est plutôt en Afrique. C'est un cacao qui résiste facilement aux maladies. Puis, entre deux, on a créé un hybride qui s'appelle le trinitario, qui a un peu les qualités du criollo, donc sa finesse, son élégance, mais il a une certaine robustesse qu'on trouve dans le forastero.
Nous sommes dans le chocolat ce matin dans Descente en cuisine, grâce à John Lehmann.
Donc des origines, il y en a de toutes les régions, ça va en passant par Saint-Domingue, le Ghana, on a toutes sortes de chocolats. Et ça, on le doit un petit peu aux Français, parce qu'ici en Suisse, on avait vraiment notre chocolat qui convenait à l'ensemble des consommateurs suisses. Et on avait un petit peu oublié ces particularités, comme par exemple ce qu'on retrouve dans le vin ou dans le café. Donc ça, c'est les Français qui sont venus avec tout un vocabulaire de dégustation et puis sont venus vraiment avec des origines différentes. Pas absolument qu'on ait le bon chocolat, mais qu'on ait des chocolats différents qui puissent animer une dégustation. Voilà, donc maintenant, il faudra choisir lequel de ces chocolats vous voulez utiliser pour faire vos petits rochers.
Moi, je ne sais pas. Allez, allons-y avec l'acide.
Ok, donc on va prendre une plaque de chocolat de Madagascar. C'est des tapettes de 50 grammes. Donc l'idée, c'est de travailler avec 100 grammes de chocolat. Donc ici, on n'a pas de microscope, mais si on voudrait examiner ces plaques de chocolat ou tous les chocolats qui sortent d'une fabrique ou d'un confiseur, les cristaux de beurre de cacao, ils sont ordonnés de manière assez précise. On pourrait s'imaginer comme une ruche d'abeilles, bien en place, tout, tout beau. Maintenant, si je vais fondre cette plaque de chocolat et je vais la laisser durcir de manière sauvage, sans m'en occuper, je vais me retrouver pas avec des hexagonaux tout simples, bien ordonnés, mais je vais me retrouver avec toutes sortes de formes, comme par exemple des cercles, des ovales, des formes de bananes, et toutes ces formes ne vont pas pouvoir s'imbriquer correctement.
Et le bel aspect brillant qu'on lui demande.
Tout à fait, oui. Alors maintenant, il faut trouver la solution pour fondre le chocolat et retrouver la belle forme. C'est tout à fait possible. On va travailler sous forme de vaccination. Ça veut dire qu'on va fondre notre chocolat.
Non mais attendez, de vaccination ?
Tout à fait. Alors, donc notre chocolat, on va le fondre. Mais on ne va pas fondre la totalité du chocolat. On va fondre les deux tiers de notre plaque de chocolat à la température entre 45 et 50 degrés. On va descendre entre 31 pour le chocolat blanc, 32 pour le chocolat au lait et 33 pour le chocolat noir. Ensuite, on n'a encore pas de cristaux dans notre masse. Alors, je vais prendre un petit morceau de mon chocolat restant que je vais hacher tout fin. Et ce petit morceau, je vais l'ajouter dans ma masse. On appelle ça le vaccin. Je brasse bien et ces hexagones vont se multiplier. Et une fois que je vais mettre au frigo, ils vont se remettre dans la forme exacte comme une ruche d'abeille.
C'est magique.
Oui, c'est magique, mais...
C'est chimique, voilà. Mais c'est magique quand même.
Tout à fait, ouais. Mais j'entends souvent des consommatrices qui sont très, très compétentes dans la pâtisserie. Elles ne touchent pas le chocolat parce qu'elles n'ont encore pas tout à fait compris ce principe-là, alors que ce n'est pas si compliqué.
Je vois des petites casseroles. Ça, c'est pour le bain-marie, j'imagine.
Voilà. Alors, ouais. L'idée aussi dans ces cours, c'est de montrer des outils qui sont accessibles à tout un chacun. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'un vrai bain-marie contient très peu d'eau.
Il ne faut pas que le fond touche.
Non.
Ça chauffe gentiment.
Gentiment, oui.
Il y a les saisons du chocolat. Hein. J'imagine que là, sur l'été, on a moins envie de chocolat. Hein.
Il y a deux choses. L'été, les gens ne peuvent pas transporter de chocolat. On a bien des sacs isothermiques, on a bien des solutions. Mais le chocolat, ce n'est pas vraiment un produit d'été. Alors, ça veut dire que je ferme les portes et puis je pars en vacances. On aime bien voyager et on aime bien un peu voir ce qui se passe. Là, par exemple, à Pâques, on a été visité avec quelques amis qui sont aussi maîtres de cours dans la confiserie. On a été visiter une petite île qui s'appelle Sao Tomé. C'est une île en Afrique, dans le golfe de Guinée. Et là, on a des belles plantations de cacao. Donc on a eu la chance d'avoir des relations avec les planteurs, on a pu voir ceux qui préparent les fermentations, qui préparent les fèves de cacao. C'était vraiment magique.
C'était la première fois que vous entriez vraiment dans l'univers de la matière première à ce point-là ?
Non, on a déjà organisé plusieurs voyages. On se fait tous les 2-3 ans une petite visite. On a déjà été à Madagascar dans les plantations de cacao. Là, c'était aussi une belle aventure. Dernièrement, on a été au Costa Rica voir des plantations sauvages. Il y a une peuplade qui s'appelle les Bribri. On est monté avec des canots à moteur. Et là, on a été voir justement cette peuplade qui prépare le cacao. Et on a pu vraiment faire avec des petites machines, des petits moulins, la masse de A à Z. Ça veut dire qu'on avait des fèves, on les a torréfiées, on a mélangé avec du sucre, avec du lait condensé. On a broyé tout ça avec une petite machine qu'on a aussi achetée. D'ailleurs, j'ai la petite machine. Hein.
Ah ouais, montrez-moi. On dirait un moulin à grains.
Alors, c'est tout à fait un moulin à grains, mais ils utilisent ça pour broyer le cacao. Donc, ça donne un cacao assez rugueux, assez grossier. Mais ça fonctionne, c'était vraiment... c'était magique.
Descente en cuisine sur la première.
Voilà, mon bain-marie commence à chauffer. Alors, on va fondre les 2/3 de notre chocolat. On ne va pas se compliquer la tâche. On met les petits morceaux dans la bassine. Sans eau, bien sûr, brasser légèrement. Et dès que notre chocolat est fondu, ça sera déjà prêt. Alors, je laisse fondre. Il faut quand même brasser pour que la fonte se fasse de manière régulière. Ça va assez vite parce que la bassine est déjà légèrement chaude. Il contient 36% de sucre. Voilà, ça fond gentiment.
Vous avez préparé quand même ce que je vois. Ah, des petites amandes. Ouais. Amandes effilées ? Enfin, non, ce n'est pas effilé, ça, elles sont bâtonnées.
Amandes, c'est les amandes bâtonnées. Alors, pour faire des rochers, ce qui est le plus facile à réaliser, on peut utiliser n'importe quoi pourvu que le produit soit sec. Donc, si je mets des adjonctions, je pourrais mettre des dattes séchées, je pourrais mettre des fruits secs, mais je ne pars pas avec un fruit humide dans mon rocher. Alors, les bâtonnets, j'ai préparé des bâtonnets d'amandes, là. C'est des bâtonnets qui sont normalement crus. Mm-hmm. Moi, je les passe au four, mais dans un four pas trop chaud.
Ça veut dire que c'est torréfié et un peu sucré.
Exactement, oui. Je recommande environ 150 degrés pour préparer ces bâtonnets. Ensuite, une fois qu'ils ont une jolie couleur blonde, moi, je les sors du four et puis j'ajoute un cinquième de sucre glace. J'humidifie légèrement pour que le sucre glace colle sur le bâtonnet. On peut utiliser un petit vaporisateur comme pour leur passage ou pour les plantes. Puis ensuite, on remet au four, mais là, il ne faut pas oublier de mettre un papier de cuisson. Sinon, les bâtonnets vont coller sur la plaque. Et là, on a un bâtonnet qui est bien torréfié et bien croquant grâce à la caramélisation. Voilà, mon chocolat, il est presque quasiment fondu.
Oui.
Je vais contrôler la température. Donc, normalement, l'idéal, c'est entre 45 et 50 degrés. Voilà. Alors, donc, maintenant, je suis à 54 degrés. J'ai deux solutions. Soit je laisse refroidir tranquillement, admettons que j'ai encore quelques tâches ménagères à faire ou autre chose, ou alors je commence le refroidissement. J'ajoute le chocolat que j'ai mis de côté. Mais je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre suffisamment pour que ma masse refroidisse et atteigne la bonne température.
C'est un jeu de patience, hein ?
Ça va, c'est vite. Mais c'est vrai que là, on n'est pas très pressé.
Non.
Descente en cuisine jusqu'à 12h30 sur la première.
J'aime ta couleur café. Tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu penses à l'heure, j'entends murmurer. Toutes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café. J'ai quand même fou l'effet, le fait que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des bouches. Tout fait comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir. toi la nuit sera blanche et couleur café. Que j'aime ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? Mon main de café est se terminer. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café.
Nous retrouvons John et son chocolat dans quelques secondes, juste après cette information routière.
Infotrafic RTS.
Soyez prudents si vous circulez sur l'axe Yverdon-Lausanne. On signale la présence d'objets sur la chaussée entre la Sarra et Cossonay en direction de Lausanne.
Descente en cuisine. Florence Farion.
Fabrication de rochers aux amandes en ville de Fribourg avec John Lehmann. C'est vrai que le chocolat, c'est, on entre dans votre atelier, c'est extrêmement odorant. Vous le sentez peut-être plus, vous remarquez au bout d'un moment.
Alors, on sent toujours quand on rentre dans l'atelier, oui. On sent toujours. Mais c'est vrai que quand on est dans l'atelier, on ne sent plus l'odeur.
Ah, parce que c'est, vraiment, vous êtes tout le temps dans le sucre, quoi.
Ouais. Alors, dans le sucre, certains pensent que ça vient vite écœurant. Mais une fois qu'on mange un tout petit truc de salé ou vinaigré, le côté sucré, le côté écœurement passe facilement.
Oui, parce que ça vous arrive quand même, les moments où c'est un peu trop.
En fin de journée, oui.
Ah oui, hein.
Mais pas le lendemain.
Voilà. Gourmand un jour, gourmand toujours.
Oui. On va se concentrer un peu sur notre chocolat, parce que c'est un peu le but, non?
Oui, c'est le but, totalement. Bon,
alors,
33.
En causant et en brassant, ouais. Gentiment, j'ai ajouté un tout petit peu de chocolat haché, tout fin. Je suis arrivé à la température de 33 degrés. Donc 33 degrés, ça veut dire que mon chocolat aurait la bonne température, mais il n'a encore pas le bon cristal. Ça veut dire que maintenant, je vais hacher un tout petit morceau. C'est trois fois rien, hein. C'est un demi-carré. J'hache ça tout fin. Et puis, je vais mettre ça dans ma masse. Il ne va pas pouvoir fondre parce que les cristaux fondent à partir de 34 degrés. Mmh. Je suis en dessous de 34 degrés. Mmh. Et c'est là que ces cristaux, donc ces hexagonaux, vont donner la forme aux autres.
C'est maintenant que ça se passe.
C'est maintenant qu'il y a une multiplication de ces cristaux stables, donc les hexagonaux, qui se multiplient au fur et à mesure. Et là, ma masse, elle est quasiment prête. Et pour préparer le PET, par exemple, c'est le même système que pour le chocolat. Donc ça veut dire qu'on prépare une masse de plastique, on met le vaccin, donc le bon polymère, et puis ensuite on brasse. Voilà, donc notre chocolat ici, il a la bonne température, le vaccin, il est à l'intérieur. Je vais mettre mes bâtonnets d'amandes, je peux mettre justement des Kellogg's ou autre chose. Il faut faire juste attention que nos bâtonnets d'amandes ne soient pas trop froids. Si je mets un produit qui est trop froid, ma masse va bloquer. Et si je mets un produit qui a plus que 33 degrés, mon chocolat va surchauffer.
Oui, ça va D'accord, ça veut dire qu'il n'est pas à température ambiante. Vos petites amandes, vous les aviez mises à tempérer quelque
part. Je les avais dans une armoire chauffante, oui. Mais vous pouvez très bien passer la moitié des amandes un peu dans le micro-ondes, voilà. Et puis mélanger, pourvu que la masse totale ne soit pas plus chaude que 33 degrés. Je brasse. Donc, on a quasiment 100 g de chocolat et j'ai 120 g de bâtonnets d'amandes. plus vous avez une céréale légère, plus il faut du chocolat pour l'enrober. Donc, admettons que je veuille faire la même recette avec un Kellogg's, il me faudrait peut-être 50 g de Kellogg's pour 90 g de chocolat. Si le chocolat recouvre bien nos bâtonnets, les bâtonnets vont pouvoir se conserver facilement 6 mois. Le seul ennemi d'un rocher serait la lumière. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse assez stable, mais qui est quand même attaquée par les UV. Et si, admettons que notre chocolat reste trop longtemps à la lumière, on aurait un goût de rancissement. Admettons que je veuille conserver ces rochers, je devrais les mettre dans une boîte fermée.
Descente en cuisine.
John Lehman, le passionné de chocolat, nous explique comment fondre le chocolat et qu'il garde sa belle brillance. Tout un secret.
Puis là, on a toute cette masse, donc là, il va falloir les séparer. Je meurs d'envie de mettre les doigts dedans, mais je me suis retenue.
Il est fait ?
Non.
Non ?
Mais non. Petit papier.
Voilà. Alors maintenant, on va dresser, donc on va confectionner les petits rochers. Donc on va faire des petites quantités qu'on glisse délicatement sur un papier. Là, j'ai un petit papier de cuisson.
Ça va tout seul.
Alors, ça va tout seul, mais il faut quand même pas trop, comme on dit en gruyère, bringuer. Il faut quand même accélérer un petit peu le rythme. Parce que sinon, on a la masse qui commence à durcir dans la bassine.
Oui, c'est le risque. Hein.
Voilà. Alors, si ça arrive, ce n'est pas trop grave. Il suffirait tout simplement de réchauffer légèrement le fond de la bassine sans passer la barre des 33 degrés.
Petit à petit, le rocher se construit.
Après 5 à 10 minutes, si on a mis nos hexagonaux dans la bassine et que ces hexagonaux n'ont pas fondu, parce qu'ils étaient soumis à une température plus haute que 34 degrés, le chocolat doit commencer à durcir après 10 minutes. Il va changer de couleur, il va devenir un petit peu opaque. Nous, on dit que le chocolat tire. Maintenant, pour accélérer le processus, je mettrai ça au frigo.
Ah, ça se mettrait au frigo ?
5 minutes. Mais il ne faudra pas les laisser au frigo. Donc, le frigo n'est pas mauvais pour le chocolat. Le problème, c'est que quand on sort un chocolat du frigo, il y a la condensation, le choc de température. Il y a de l'humidité qui se pose sur le chocolat devient terne. Donc si vous avez un joli rocher qui supporte une température d'environ 27 degrés, je ne le mettrai pas nécessairement dans un frigo.
Donc au frigo.
Voilà.
À travers vos voyages, est-ce que vous avez eu des surprises par rapport à l'utilisation du chocolat ?
J'ai pas eu de surprise comme ça. Par contre, ce qui m'a intrigué, c'est que quand on voit dans les plantations de cacao, les gens qui travaillent toute leur vie avec le cacao, ils en ont jamais mangé. Donc, quand on a été visiter ces plantations, on avait pris des plaques de chocolat. Et ils étaient tous intrigués. Alors, je veux pas dire qu'ils avaient jamais mangé de chocolat, mais c'est pas quelque chose de très connu.
Et John, vous avez encore des choses à apprendre sur le chocolat ? Ou en, je sais pas, 30 ans de pratique ou quelque chose comme ça, vous avez l'impression d'avoir fait le tour ? Jamais ?
Non, on n'a jamais fait le tour, on apprend toujours quelque chose. Et je pense que plus on vieillit, plus on voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre.
Il y a un Graal comme ça, il y a quelque chose que vous auriez aimé réussir, une sorte de création idéale que vous n'avez pas encore réussi à mettre au point ?
Je ne me verrai jamais dans un concours comme champion du monde. D'ailleurs, je suis ami avec David Pasquier.
Qui est David Pasquier ?
Alors, David Pasquier, c'est mon dernier compétiteur qui a fait les championnats du monde. Il représentait la Suisse là, il y a 6 mois en arrière à Paris. Et il s'est classé vraiment dans le haut du panier. Mais le niveau du concours, il est devenu tellement fou. C'est 6 mois d'investissement en plein pour arriver à quelque chose. Non, alors, il a un autre talent que moi, j'ai pas du tout de prétention. Et l'idée de mon concept ici, c'était vraiment de rester tranquille, de pas faire trop de bruit, puis de pouvoir faire mes petits chocolats, comme je les aime, sans vouloir être champion du monde ou le meilleur chocolatier de la ville de Fribourg.
Bon, ben John, merci beaucoup. On va aller déguster ces rochers, ils ont dû refroidir depuis le temps.
Alors, tout à fait, ils sont prêts, hein. On pourrait les emballer, on peut les transporter, ils sont nickel.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus et fait partager votre passion du chocolat. Merci beaucoup John. On retrouve évidemment en lien sur notre site toutes les informations utiles pour vous trouver. Même si l'été vous mettez les pédales douces, on a bien compris.
Descente en cuisine, Florence Farion.
John ferme les portes durant un mois, mais ce pédagogue dans l'âme retrouvera le chemin de son atelier dès le mois d'août pour de nouvelles sessions gourmandes réservées aux amateurs. Tout est sur notre site rts.ch, vous cherchez Descente en cuisine et vous avez tout. L'émission de radio, l'émission de TV à revoir, ainsi que les recettes glanées en ville de Fribourg. La semaine prochaine, nous serons dans la cuisine de Christa de Carouge, puisque l'émission se déroulera à Zurich.
Descente en cuisine avec Sel des Alpes, le sel pur des sommets, seldesalpes.ch.
La première vous offre l'heure.